Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé en entendant la lecture de Job, la première lecture. Ça ne vous rappelle rien ? Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, métro, boulot, dodo, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre. Ça peut être notre cas. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. D'arriver à la fin de ce mois de janvier, début du mois de février, les bras ballants, en se disant « Bon, ben vivement les vacances de février, puis vivement les vacances de Pâques, puis vivement les vacances de l'été, puis vivement la prochaine promotion, puis vivement... » On peut sentir une espèce de lassitude, vous voyez, à cette période de l'année, une espèce de « À quoi bon ? C'est l'éternel cycle qui recommence, vous voyez, une espèce de lourdeur. » Qui peut encrasser un peu notre cœur, sans vraiment qu'on ait vu une faute, ou sans vraiment qu'il y ait quelque chose de grave qui se soit passé dans notre vie, mais voilà, le poids des jours, c'est lourd de porter une famille parfois, c'est lourd de porter la maladie, c'est lourd de porter une entreprise, c'est lourd de porter un travail, c'est lourd de porter des enfants parfois, et c'est lourd de porter des parents aussi parfois. Bref, on peut avoir ce sentiment de lourdeur, ce sentiment de... Et si on ne l'a pas, je pense que l'évangile d'aujourd'hui peut nous donner un élan supplémentaire au cas où nous serions dans une euphorie spirituelle et remplie de grâce et de joie. Parce que le Seigneur répond. Le Seigneur répond à cet aquabonite. Et d'ailleurs, Ignace de Loyola en a fait un moyen de sortir de cette espèce de routine. Notez bien que l'objectif n'est pas de sortir d'une routine, mais l'objectif est de profiter de la gloire de Dieu dans toutes ses dimensions. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous propose ? Eh bien, il nous propose une de ces journées, qui commence le vendredi soir, puisque vous savez, pour les Juifs, la journée ne commence pas le matin et jusqu'au matin suivant, mais du soir au soir. Donc ça commence par la synagogue, la prière dans l'église, jusqu'au soir suivant. Et on va voir que le Seigneur accorde beaucoup d'importance à trois choses qui me semble pour nous peuvent être des points de repère vraiment intéressants. La première, c'est la prière. Incroyable le temps que le Seigneur passe en prière. Ben, il y a la prière à la synagogue, donc en communauté, comme on fait maintenant. Il y a la prière en famille, hein, la suite de la prière pour les Juifs sortis de la synagogue, ils continuent à la maison. Autour du Seder Pascal, autour de la bénédiction des couples, la bénédiction des pains, etc. Et puis c'est aussi le moment où la mère de famille va apporter la bougie qui signifie que c'est la fiancée Shabbat qui arrive. Vous voyez, cette bougie qu'on va poser sur l'autel et qui est le signe que la résurrection arrive. Voilà. Et la belle-mère de Pierre est malade, celle qui doit porter la bougie qui signifie que la résurrection arrive est malade. Qu'est-ce que fait Jésus en sortant de la synagogue ? Et la première chose qu'il va faire, c'est la guérir, pour rétablir ce signe, pour montrer qu'effectivement, la résurrection vient. Donc Jésus prie. Jésus prie à la synagogue, Jésus prie à la maison, et Jésus prie dehors, dans la solitude. Et il me semble que faut vraiment qu'on s'interroge. Il faut vraiment qu'on demande à l'Esprit-Saint, est-ce que je prie suffisamment ? Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais mon père, c'est bon, le carême arrive dans 15 jours, on verra à ce moment-là. Ouais, ben à ce moment-là, on montera encore la dose, mais d'ici là, il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Je veux dire, il y a peut-être moyen de... Parce que peut-être que certains d'entre nous peuvent avoir la tentation de se dire, ben, bon, je viens à la messe le dimanche... Surtout que le premier dimanche du mois, venir à Notre-Dame-des-Victoires, c'est compliqué. tout est rendu de plus en plus compliqué. Bon, j'ai fait mon truc, quoi. J'ai fait ma... Mais là, on rentre dans ce qu'on disait dans la première lecture. J'ai fait ma corvée, j'ai fait mon devoir. Il me semble que la messe du dimanche, c'est moins que le minimum. Ah ? Si vous vous dites, la messe, c'est bon, j'ai fait mon quota, ben, les amis, on est en dessous du minimum. Parce que le Seigneur veut qu'on ait une relation avec lui, comme Jésus lui-même avait une relation avec son Père qui lui a permis d'accomplir une multitude de choses. Nous avons en nous la Trinité. Nous avons en nous la Trinité. Et si nous nous contentons de la messe du dimanche, je vous promets que petit à petit, vous n'allez plus venir le dimanche. Vous allez venir un jour, un dimanche sur deux, puis après un dimanche sur trois, et puis etc., etc. Et c'est ce qui se passe pas mal, je trouve, en ce moment. Parce qu'on manque de cette relation avec le Seigneur. Et on oublie que bien souvent, dans cette relation intime avec le Seigneur, dans cette prière seul à seul, dans cette oraison, mais le Seigneur nous bénit. Le Seigneur refait nos forces. Le Seigneur touche nos intelligences, nos mémoires, notre volonté dans cette prière intime. Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une option pour les religieux et les curés. Ce n'est pas une option. Si le Seigneur nous montre dans cette journée, et si nous avons cet évangile aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous invite vraiment à le rencontrer. En fait, il nous appelle. Mais venez me rencontrer dans la solitude des celliers. Venez me rencontrer. Et c'est pourquoi on fait des nuits d'adoration. Mais vous voyez, la nuit d'adoration, c'est encore quelque chose qu'on fait ensemble. Mais je crois que le Seigneur veut nous rencontrer seul à seul. Il veut que nous prenions l'initiative de nous lever le matin, un peu plus tôt, ou dans la journée, d'aller à l'écart dans une église, ou le soir, de faire un écart et puis de prendre du temps seul. Il y a une multitude de façons. On peut entrer dans une église, on peut se mettre dans un coin de la maison, on peut, au lieu de revenir en métro, revenir à pied, et au lieu de lécher les vitrines, passer du temps en présence du Seigneur tout en marchant, enfin, chacun selon ça. Mais être avec le Seigneur, vous voyez, et que le Seigneur, que le Seigneur. C'est indispensable pour la suite, parce que le Seigneur ne nous demande pas que de prier, le Seigneur veut que nous prenions soin des gens. Et vous avez remarqué, je dis exprès des gens et pas des pauvres. Bien sûr que le Seigneur veut qu'on prenne soin des pauvres. Mais dans notre esprit, je pense, aujourd'hui, quand on dit prendre soin des pauvres, on peut y avoir un risque de se mettre au-dessus. Vous voyez ? Prendre soin des pauvres, ça veut dire que je me mets quelque part au-dessus. Non ! Je prends soin des gens, c'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Dans nos familles, dans nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Mais comment est-ce qu'on peut savoir quels soins je dois donner aux autres si je ne prie pas ? Forcément, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas très bien quoi faire. Ou alors on se retrouve dans une situation où on est comme obligé. On va se dire, ouais, faut que j'aille voir mon père. Ouais, faut que je téléphone à ma mère. Ouais, faut que j'appelle mon fils. Ouais, il faut que je fasse ceci. Ouais, il faut que je fasse... Vous voyez, on risque de fonctionner par injonction. Ça, c'est typique quand on ne prie pas assez. Quand l'injonction sans cesse nous martèle ce qu'on doit faire, c'est notre conscience. Elle est belle, elle est magnifique, elle agit. Ça, c'est génial. Mais vous voyez, ce n'est pas encore baigné dans la prière et dans un élan spirituel qui fait qu'il y a une sorte de joie qui se déploie. L'action à laquelle le Seigneur nous invite au sujet des malades. Vous voyez, le Seigneur, il fait deux choses. Il guérit les malades et il chasse les démons. Mais il nous demande exactement de faire la même chose, à tous les niveaux possibles. s'occuper des malades, ça peut être aussi bien les envoyer à l'hôpital, les envoyer chez le médecin. Si on est médecin soi-même, en accueillir, et vous le faites déjà sûrement. Mais ça peut être aussi prier Dieu que les gens guérissent. Vous allez me dire, vous demandez là de faire une guérison miraculeuse. Ben, appelez ça comme vous voulez. Mais demandez aux gens, à Dieu de guérir ceux qui sont dans votre entourage et qui sont malades. Est-ce qu'on le fait assez? Je suis pas sûr. Est-ce que vous proposez à vos collègues de bureau qui sont malades la prière? Est-ce que vous lui dites, est-ce que tu veux, je vais t'imposer les mains, est-ce que tu veux que je te demande à Dieu de te guérir? Là, peut-être que dans votre cœur, vous vous dites, oh là là, celui-là, il est devenu fou. Mais en fait, c'est ce que le Seigneur fait dans l'Écriture, ni plus ni moins. Et si on l'a aujourd'hui, c'est pas une œuvre journalistique. Enfin, c'est pas des... L'écrivain biblique n'est pas un journaliste qui nous raconte ce qui s'est passé pour qu'on regarde ça et qu'on se dise, ouais, c'est pas mal. Non, c'est pour qu'on le fasse. Parce que dans la prière, le Seigneur non seulement nous montre qu'il nous aime, mais il nous donne sa puissance. Justement pour qu'on prie pour les malades et qu'on chasse les démons ensemble. Vous voyez, c'est pourquoi à Notre-Dame des Victoires, nous aimons le jeudi et puis le premier samedi du mois prier pour les malades. Mais je pense qu'on devrait le faire de façon beaucoup plus large encore. Et chasser les démons, bien sûr, qui n'arrêtent pas de nous tarabuster. Le soin des gens, c'est une œuvre énorme. Et il faut qu'on s'y attelle, chers frères et sœurs. Je pense que le Seigneur nous y appelle, vraiment. Dernière chose auquel le Seigneur nous appelle aujourd'hui, chacun, c'est évangéliser. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de rester entre nous. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas se plaindre ensuite qu'il y ait de moins en moins de chrétiens. Certains d'entre nous se disent « Mais moi, je ne suis pas assez formé pour évangéliser. » Ou alors, j'ai peur. Et si c'est votre cas, chers frères et sœurs, mais moi, je vous dis « Mais alors, prie et tu n'auras plus peur. » Et puis ensuite, il y a des lieux de formation partout. À Paris, on est super gâtés. « Oui, mais j'ai trop de boulot. » Ben oui, mais là, il faut choisir, mon frère. Et on peut toujours, dans ce fameux métro, lire un article du catéchisme de l'Église catholique. C'est une excellente formation. Vous voyez ? Mais pour en parler, pour le dire. C'est quoi évangéliser ? C'est juste dire que Jésus est présent. Juste dire qu'il est là vraiment. Et qui peut nous aider concrètement. Vous avez remarqué que la présence de Jésus dans l'Écriture, dans la maison de Pierre, elle se déploie par des choses super concrètes. Et Jésus ne fait la morale à personne. Il guérit la belle-mère, il guérit les malades, il chasse les démons. C'est super concret. Et je pense que c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de dire aux gens, tu sais, Jésus est là. Et si tu veux, on va lui demander de t'aider dans ta recherche de boulot, dans ta recherche d'appartement. On va lui demander de t'aider pour cette réunion très importante mardi matin. Évangéliser, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une option non plus. Pour nous, les chrétiens, c'est une obligation. Et il me semble que si dans notre cœur nous sentons cet aqua bonit, à quoi bon grandir, si nous sommes un petit peu comme Job dans la première lecture, c'est peut-être que vraiment le Seigneur nous appelle solennellement à prier, à prendre soin des gens et à annoncer le royaume de Dieu en dépassant nos limites. Les limites de nos petits cercles, les limites de nos habitudes. Voilà. Il faut lui demander cela pendant cette Eucharistie pour qu'aucun d'entre nous ne sorte de cette Église sans avoir le désir de prier, sans avoir le désir de soigner les gens autour de nous et sans avoir le désir d'annoncer l'Évangile. Amen.